Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, bon matin et bienvenue à cette émission au Kiosque Magazine de ce mercredi 28 janvier consacrée à la santé, à la cuisine et à la maison. Alors pour la revue de presse aujourd'hui, vous serez en compagnie de Sophie Chevance, de Janine Petitbois.
Allô, allô,
Janine.
Allô, allô, j'ai perdu la voix moi.
Oh non mon Dieu, c'est les ravages de l'hiver.
Oui c'est ça.
On va essayer de s'en sortir malgré tout. Oui. Et puis, nous sommes également en compagnie de Safia Larabi. Allô, Safia.
Allô. Bonjour.
Oh, ça va bien.
Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui.
Ça nous fait plaisir.
Oui, donc Safia Larabi est avec nous pour la toute première fois en studio pour notre émission. Et donc, nous tenons à lui souhaiter en fait la bienvenue au sein de l'équipe. Pour les sujets d'aujourd'hui, petit tour de table. Janine, toi, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, comme vous voyez, moi, je vais vous parler de savoir aimer l'hiver en s'abritant comme il faut. J'ai des belles idées de santé aussi. Comment on dit? Donc, on va parler du baiser et savoir nos petites mamans, des petits conseils pour les enfants, comme on dit.
Ouais. Aimes-tu malgré tout l'hiver, même si ça te brise la voix?
Mais oui, bon sang, quelle surprise j'ai eue ce matin. Mais enfin, on fait avec.
Et oui, c'est comme ça. Et toi, Safia, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, pour la première séance, je vais vous parler des aliments qui renforcent l'immunité et les tendances santé en alimentation pour prendre soin de son corps par ses saisons.
Très intéressant. En ce qui me concerne, dans le fond, mais moi, je vais vous emmener en fait du côté, je vais vous emmener en cuisine en fait pour vous faire découvrir une nouvelle tendance qui s'articule autour des saveurs boréales. Alors, ce sera un éloge et un hommage en fait aux produits, aux aliments en fait sauvages qui sont près de chez nous. Et par la suite, je vous emmènerai en fait plutôt du côté maison. Et dans le fond, je vous proposerai différents moyens pour réduire l'empreinte écologique sur la planète. À tout de suite.
Eh bien, moi, j'ai aimé l'hiver un pas à la fois. Un article de Annie Richer dans le coup de pouce de février 2015. Alors, le moindre flocon vous rend malheureuse et vous transforme en grincheuse. Voici quelques petits conseils d'aide. Vite un manteau. Un bon manteau nous protégera du vent et de l'eau et préservera notre chaleur corporelle tout en évacuant l'humidité. On le choisit assez long pour couvrir nos cuisses. La coquille doit être doublée d'une membrane en Gore-Tex ou d'un enduit similaire. Les coutures doivent être scellées pour contrer les infiltrations d'eau. Côté isolant, le duvet est un excellent choix, vu sa légèreté, son confort et sa grande adaptabilité aux différentes températures. De bonnes bottes, surtout, on se procure des bottes doublées d'une membrane imperméable afin de garder nos pieds au sec. Le cuir est imperméable, mais il nécessite un certain entretien. Une doublure de laine polaire à l'intérieur de la tige nous procurera plus de chaleur. Pour mieux affronter les trottoirs glacés, on peut se procurer des semelles de crampons. On adopte la laine Mérino. Cette laine est très fine et douce. Elle ne pique pas la peau. Extensible, isolante, antimicrobienne, finit les odeurs et elle éloigne l'humidité.
Ah, c'est des bons conseils quand même.
Mais oui,
en
la
plus,
laine Mérino.
C'est ton premier hiver aujourd'hui. C'est ton premier hiver cette année, pas aujourd'hui, mais cette année.
Ouais.
Donc, alors, je prends note.
Comme je vous dis, pour mettre le froid KO cet hiver, on enfile un collant et une camisole de laine Mérino sous nos vêtements avant de sortir. Un confort garanti qui nous garde toute la peau chaude. On traîne des chauffe-mains. Nos doigts et nos orteils s'engourdissent un peu plus à chaque minute de retard de l'autobus, ce qui n'arrive pas. Il suffit donc de glisser des chauffe-mains dans nos mitaines et dans nos bottes avant de partir. Ces petits sachets peu dispendieux génèrent de la chaleur rapidement. Le calme après la tempête. Rien d'aussi magique que de sortir se balader tout de suite après une chute de neige. Le tapis blanc immaculé, le temps arrêté, les sons étouffés. Impossible de rester insensible devant tant de paix et de beauté. ce que tu découvriras bientôt après la première neige, Safia. Faudra que tu ailles te promener parce que c'est très doux le temps dehors.
Avec l'échauffement, c'est noté.
Ouais, la luminosité.
En passant pour l'échauffement, enfin juste un petit truc, j'ai découvert qu'il y avait des échauffements électriques. Alors ça peut être un plus.
Là, c'est à penser ça. Luminosité Émile Pertuis pour contrer le blues. Les journées sont courtes, le manque de lumière amène 15 % à 25 % de la population à souffrir de dépression saisonnière. Pour garder le moral, on opte pour une bonne marche vivifiante au soleil à l'heure du lunch et on investit dans une lampe de luminothérapie à laquelle on s'expose 30 minutes par jour. Et j'ai un autre petit texte qui s'avère être sur le baiser sur toutes les lèvres. De petites statistiques de la Source Magazine, ça s'exprime. Ça a été fait, cette étude, durant la Journée mondiale du baiser, le 6 juillet 2012, entre autres. Pourquoi embrasse-t-on? Pour trouver le bon partenaire et le garder. Selon plusieurs études, dont l'une menée récemment par l'Université Oxford, les longs baisers langoureux échangés en début de relation permettent inconsciemment à madame d'évaluer via le goût et l'odorat la qualité et la compatibilité des marqueurs génétiques de monsieur.
Et pour monsieur?
Attendez. De même que son état de santé. Monsieur, quant à lui, en profiterait pour se renseigner sur la fertilité de madame.
Ben voyons.
Et voilà. Une fois le couple formé, le baiser garde toute son utilité, puisqu'il provoque la sécrétion de neurotransmetteurs réconfortants, tels que la dopamine, la sérotonine, les endorphines et surtout l'ocytocine, mieux connue sous l'appellation d'hormone de l'attachement. Savez-vous que l'âge moyen du premier baiser chez les jeunes Québécois est 14 ans, excusez-moi. 54 % des Canadiens osent embrasser leur conquête lors d'un premier rendez-vous. Et donc, 76 % des Québécois ne voient aucun problème à se bécoter en public. Un French kiss passionné sollicite au bas mot, mesdames, une trentaine de muscles faciaux. Rien de tel pour se refaire une beauté.
Alors,
les French kiss. Savez-vous que le record du plus long baiser au monde réalisé ici, c'est le du 12 au 14 février 2013 en Thaïlande, a été de 58 heures, 35 minutes et 58 secondes.
Toute qu'une performance, oui.
Imaginez, ils ont pas lâché celle-là. Alors, les lèvres et leurs milliers de terminaisons nerveuses constituent l'une des parties les plus sensibles du corps. Et lors des relations sexuelles, l'homme embrasse surtout avant, afin d'exciter sa partenaire, tandis que la femme tend à embrasser une fois les ébats terminés pour prolonger les traites.
Je vous emmène du côté des saveurs boréales parce qu'il n'y a pas que les aurores, il y a aussi les saveurs boréales. Donc, apparemment, c'est une nouvelle tendance. Il semblerait qu'on n'a jamais autant parlé des produits alimentaires issus de nos forêts, nos champs, notre fleuve et transformés par les artisans d'ici qu'aujourd'hui. Un courant qui enflamme les jeunes chefs et leur clientèle. C'est un petit texte de Sophie Suraniti qui est paru dans le Châtelaine du mois de février 2015. Il ne reste plus beaucoup de temps pour le mois de février, on y arrive bientôt. Filet de porc au pain blanc et poivre des dunes, coulis de sureau noir, lichen frit, caplan entier pané, julienne de racine à l'esturgeon fumé. Voilà le genre de plat qu'on peut déguster dans l'un des nouveaux restos qui mettent en vedette les produits locaux. Les enseignes spécialisées en cuisine nordique sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Un magazine consacré à notre identité culinaire, qui s'appelle Caribou, vient même d'être lancé. Comment est-on passé du répertoire de nos grands-mères à une cuisine boréale branchée? La mode terroir s'est amorcée en fait dans les années 90, sans faire trop de vagues. Puis, il y a 10 ans, en 2005, des chefs scandinaves ont lancé leur manifeste pour la nouvelle cuisine nordique, qui a eu des échos visiblement partout dans le monde. Voilà le véritable coup d'envoi du mouvement, semble-t-il. Désormais, promouvoir les ressources typiques de notre territoire, valoriser le travail artisanal des producteurs en marge de l'agriculture de masse n'était plus perçu comme l'affaire de quelques originaux, mais bien comme une démarche logique, légitime et très tendance. À la table des chefs, aujourd'hui, tout ce qui est sauvage, petits fruits, plantes, gibier, poissons est recherché. Un exemple parmi d'autres, la morille de feu, qui est un champignon qui pousse sur le sol des forêts boréales dévastées par le feu et vendu à prix d'or dans certains marchés. Les chefs d'ici se réapproprient des produits auparavant snobés, comme le hareng ou le maquereau, ou oubliés, tels que la sarriette ou le sureau. Et ils rendent sexy des ingrédients courants comme le maïs, les crosses de fougère, aussi appelées les fameuses têtes de violon, également les courges. Nous avons des ressources fantastiques autour de nous. Nous redécouvrons des saveurs. S'enthousiasme Ariane Paré-Le Gall, fille de Gérard Le Gall, créateur de l'entreprise de cueillette Gourmet Sauvage. En passant, j'ai regardé où était Gourmet Sauvage. C'est dans le coin de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, il me semble. Et vous me direz, oui, mais de la cueillette, en ce moment, c'est pas très d'actualité, mais ils font plein de produits transformés. Donc, c'est quand même très intéressant, même hors de la saison. Lorsque mon père a commencé avec d'autres coureurs des bois comme François Brouillard des Jardins Sauvages, il y a plus de 20 ans, personne ne s'intéressait aux ressources naturelles d'ici. Il a fallu convaincre. Des chefs comme Anne Desjardins, Daniel Vézina et Normand Laprise ont ouvert la voie. Vous les connaissez peut-être?
Oui, de très bons cuisiniers. Ben oui.
Sur le terrain, face à la demande croissante, la cueillette en milieu naturel se répand un peu partout. Des petits réseaux locaux se créent. Un cueilleur ou un pêcheur propose sa marchandise au restaurant de son patelin. Sinon, des entreprises spécialisées comme Gourmet Sauvage, dont je vous ai parlé, Les Saveurs Sauvages ou encore Gaspésie Sauvage, il y en a en fait une centaine au Québec quand même, quadrillent le terrain et forment des pros de la cueillette afin de fournir les chefs des villes. On espère quand même que cette pratique écologique, biologique est quand même responsable parce qu'on entend aussi souvent parler de surcueillette, alors on espère que ça se fait quand même dans de bonnes règles. Pour les produits... Oui, en tout cas, on imagine, du moins on l'espère. Pour les produits issus de la pêche, la distribution passe généralement par des intermédiaires spécialisés. Le catalogue des ressources s'étoffe avec le temps. Semble-t-il, d'ici le printemps, nous pourrons offrir aux restaurateurs des algues comme le wakame, la laitue de mer et la mousse d'Irlande. Ce sont des algues alimentaires. Le wakame est quand même très connu, mais on va visiblement en avoir deux chez nous, donc ce sera quand même très intéressant. Donc, des algues alimentaires en plus des champignons, des petits fruits et des plantes que nous ramassons, dit Gérard Matard de Gaspésie Sauvage. Le garde-manger boréal ne cessant de s'agrandir, nous n'avons pas fini de faire des découvertes.
Joli programme.
Oui, alors j'ai même pour vous quelques petits endroits en fait où vous pouvez déguster cette nouvelle cuisine, cette nouvelle tendance culinaire. À Montréal, vous avez plusieurs coins. On parle beaucoup de fermeture de restaurants. On imagine que ceux-ci seront peut-être épargnés. En tout cas, on l'espère aussi.
Les bons restent ouverts.
À Montréal, vous avez l'hôtel Herman, les 400 coups, Manitoba, Renard, Artisan Bistrot et Toqué. J'ai regardé un petit peu. Toqué, c'est quand même assez cher, mais vous en avez de très abordable. En fait, le Manitoba offre des repas, je vous dirais, des plats principaux entre 15 et 20 $. Donc, c'est quand même assez raisonnable. Il y a aussi des brunchs pas très chers et des menus pour le midi, pour le lunch. À Québec, vous avez le Bistrot Nordique, Chez Boulet, La Traite et Légende. Enfin, en Gaspésie, vous avez Villa Estevan, aussi appelé les Jardins de Métis.
Pas de mes amis qui ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Kingston, ils font de l'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Tilida, hitcha, tilida, dilididam, tilida, hitcha, tilida, dilididam, tilida, hitcha, tilida, dilididam, tiliadam, dilidudi, tilidam, dilididum, tiliadidam. Ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, c'est le temps de vous faire soigner. Un petit gin, puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir les pattes en l'air. Tilida, Si vous venez qu'à empirer, frottez-vous avec de l'huile camphrée. Si vous avez mal au cœur, prenez une ponce de painkiller. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous aurez pas l'influenza. Tirida, atcha, tirida, dilididam, tirida, atcha, tirida, dilididam, tirida, atcha, tirida, dilididam, tirida. Moi pis mon mari, on est allé faire du ski. Puis rendu au Mont-Tremblant, il faisait froid, c'est effrayant. J'avais la face comme une forçure, puis le bout du nez, je l'ai dur. Je vous dis que c'est pas rose quand on a un brin des noses. Tirida! 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 S'habiller bien chaudement si on veut pas attraper ça. L'hiver, c'est un mauvais temps pour les rhumes d'estomac. Dans le mois de février, la plupart ils sont grippés. Mais rendu au mois de juin, d'autres attrapent la fièvre des foins.
Oui, un atchoum. Et c'était très intéressant, notre musique.
Oui,
tout le monde à la grippe de Geneviève Bilodeau, qui, naturellement, beaucoup de gens ont reconnu qu'elle a repris les belles chansons de Madame Labolduc, que l'on connaissait il y a quelques années déjà. Alors, comme on dit, le rhume, la grippe, la gastro, eh bien, c'est fini. Voici un article par Marianne Guénette, André-Anne Guénette, dans le coup de pouce de février 2015. Comment ne pas être malade cet hiver? Je pense que j'aurais dû lire ça avant de vous parler ça aujourd'hui. Alors, nous avons ici le rhume et la grippe vous font chaque hiver la vie dure. Pas cette année, si vous suivez ces bons conseils de nos experts, qui sont Annick Bérubé, kinésiologue à la clinique de l'Université de Montréal, Jean-Yves Dionne, pharmacien et expert conseil en produits de santé naturelle, le docteur Éric Frost, professeur adjoint au département de microbiologie et d'infectiologie de l'Université de Sherbrooke, Roselyne Gagnon, naturopathe agréée et détentrice d'une maîtrise en nutrition, Sybille Strozzi, microbiologiste et enseignante de microbiologie dans les écoles de naturopathie de Montréal. Les petits conseils sont à adopter la vitamine D. C'est 97% de la population mondiale qui serait carencée en vitamine D, selon Jean-Yves Dionne. Et oui, au Québec, comme dans les autres pays nordiques, on arrête de synthétiser la vitamine en septembre. Oh. Comme sa demi-vie, le temps nécessaire pour éliminer la moitié de nos réserves est de 15 jours, on arrive ainsi en décembre avec nos réserves à zéro.
Complètement à plat.
Juste à temps pour les pics de grippe. C'est ce que j'ai pas fait, moi. Donc, pour éviter ce problème, M. Dionne recommande de prendre 2000 unités de vitamine D par jour. Alors, voilà. Nous disons donc que bien manger est aussi très important. On mange à heure régulière en privilégiant les fruits et les légumes, tant au repas qu'aux collations. Le corps a besoin de protéines pour fabriquer des anticorps, rappelle Roselyne Gagnon. On s'assure d'en avoir en quantité suffisante au repas et aux collations. On vise 15 grammes par portion. On privilégie également les produits laitiers dont la caséine est prédigérée, comme le yogourt et le fromage, plutôt que le lait, car ils stimulent moins la formation de mucus. Finalement, les aliacées, ail, oignons, poireaux, etc., sont également des alliés de notre système immunitaire.
Mais pas de notre haleine.
Ah, ben là, ouais, mais ça se digère bien. En plus d'avoir des propriétés antimicrobiennes, on vise à en manger tous les jours. Gérer son stress, même si le docteur Frost rappelle que le lien entre stress et infection n'est pas encore clairement établi, on sait qu'un stress prolongé affaiblit le système immunitaire. On gagne donc à trouver des exutoires pour notre stress. Faire de l'activité physique régulièrement, s'assurer un sommeil de qualité, se débrancher régulièrement de nos bidules électroniques et adopter des techniques de gestion du stress comme la méditation, le yoga, la respiration dirigée et on prend de l'air, on sort au grand air. Aussi, limiter le sucre. En laboratoire, on a remarqué que des macrophages, les globules blancs qui éliminent les microbes, placés dans une solution sucrée, étaient moins actifs que leur métabolisme était moins actif et que leur métabolisme était au ralenti, selon Jean-Yves Dionne. Conclusion, on diminue le sucre. Selon Roselyne Gagnon, le sucre augmenterait aussi la quantité de mucus dans les voies respiratoires. Je dois en avoir trop, moi, c'est comme rien. Offrant ainsi un terrain favorable à la croissance des virus et bactéries. La nutritionniste suggère donc de limiter les desserts à deux fois semaine et d'éliminer les jus de fruits de notre diète. On privilégie les fruits entiers.
Ah, ben là, je me disais juste deux desserts par semaine, c'est pas beaucoup, là, voyons.
Ben vois-tu, moi, j'en ai pris trop. Mais alors, il faut aller vers les fruits. Okay, c'est ça la solution.
Bonne alternative.
Prendre des probiotiques. Les experts consultés sont d'accord. Les probiotiques offrent une protection intéressante contre les microbes qui circulent durant la saison hivernale, surtout contre la gastro. En effet, 80 % de notre système immunitaire réside dans notre intestin et quand on peuple ce dernier de bonnes bactéries, pour se construire une importante flore intestinale, il n'y a simplement plus de place pour les pathogènes. Au Canada, tous les suppléments de probiotiques en vente libre sont homologués par Santé Canada et leur innocuité est prouvée. Ainsi, on ne s'en fait pas pour la marque, à condition d'en prendre régulièrement, idéalement tous les jours, et on offre tous à tous nos membres de la famille, même les plus petits. Et un dernier, se faire vacciner. Le vaccin contre la grippe est intéressant pour prévenir une souche de grippe, mais c'est seulement un virus sur les quelques 200 qu'on peut attraper, rappelle Jean-Yves Dionne. Il reste que la grippe présente des risques de complications sérieuses pour certains. Ainsi, on se fait vacciner si on vit avec ou on s'occupe d'une personne d'âge âgé, d'un bébé de moins de 6 mois, d'un enfant qui présente une fragilité des voies respiratoires, asthmatique par exemple, ou si on vit avec une personne immunosupprimée, personne en traitement pour le cancer, le VIH ou une femme enceinte.
Alors, côté des brèves pour aujourd'hui, j'en ai une petite sur la santé. Digestion décalée. Alors, beaucoup de personnes en ce moment partent en vacances, peut-être dans le sud, et puis sont victimes du décalage horaire, même s'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Le décalage horaire, en tout cas, contribuerait au surpoids. La perturbation du rythme circadien déréglerait les bactéries contenues dans les intestins, ce qui pourrait entraîner une intolérance au glucose et l'obésité. Alors, bon, la flore intestinale des participants à une étude israélienne s'est rétablie 2 semaines après leur vol transatlantique, pardon. Mais chez les personnes qui voyagent fréquemment ou dont les horaires de travail alternent entre quart de jour et quart de nuit, le problème pourrait devenir chronique.
Une petite brève pour le cœur et le cerveau issue de l'Université de Montréal. Les personnes âgées en bonne forme aérobique ont de meilleures capacités cognitives, rapportent les chercheurs de l'Université de Montréal. En effet, l'entraînement cardiovasculaire ralentit le durcissement des artères qui vient avec l'âge. En minimisant les dommages aux vaisseaux sanguins du cerveau, on maintient ainsi les facultés cognitives plus longtemps.
Au bureau, de la lumière, s'il vous plaît! Un critère devrait s'ajouter à notre liste lorsqu'on change d'emploi. Les locaux sont-ils éclairés par la lumière du jour? Bonne question. Selon des chercheurs de l'Illinois, l'exposition à la lumière naturelle aurait des effets bénéfiques mesurables. En effet, les travailleurs dont le bureau jouit d'un tel éclairage rapportaient avoir des nuits de sommeil plus longues, 46 minutes de plus quand même par nuit, et un sommeil de meilleure qualité, en plus de faire plus d'activités physiques et de profiter d'une meilleure qualité de vie que leurs confrères soumis à un éclairage artificiel. C'est pourquoi les chercheurs encouragent les architectes à construire des édifices qui font une large place aux fenêtres. Ainsi, un édifice dont les bureaux seraient situés à 8 mètres ou moins des fenêtres permettrait à tous de profiter des bienfaits de la lumière.
Continuons notre kiosque magazine avec la rubrique « Santé et les soins de l'hiver ». Au programme, un article d'Anne-Laure Vénot avec le magnésium, le zinc, la vitamine D et la vitamine C, les aliments qui renforcent l'immunité. Infections, ORL, digestives, pulmonaires, malgré nos défenses naturelles, il arrive que nous résistons mal aux agressions et que nous tombions malades. Cette vulnérabilité, le nutrithérapeute Jean-Paul Curté l'explique en 3 points. Nous sommes trop fatigués, nous manquons de certains nutriments clés et enfin, nous consommons des aliments qui profitent aux agents infectieux. Grâce à l'immunonutrition, il nous explique comment renforcer notre immunité en commençant par optimiser notre alimentation. En premier lieu, du magnésium, pour prévenir notre vulnérabilité.
C'est bon ça.
Le magnésium joue un rôle fondamental de grand équilibreur face au stress de tout ordre, thermique, chimique ou psychologique. En situation de stress, nous mobilisons beaucoup d'attention et d'énergie pour trouver une réponse, une solution. Ce qui explique que nous soyons plus fatigués et donc plus vulnérables aux agressions, notamment infectieuses. De plus, à chaque situation de stress, effet de surprise, mauvaise nouvelle, surmenage, nous consommons encore un peu plus de magnésium et finissons par en manquer. Pour améliorer notre production d'énergie et réduire notre retentissement au stress, il est donc indispensable de s'assurer de bons apports en magnésium. Où le trouver, donc?
Oui, moi je veux savoir, où est-ce qu'on peut trouver ça?
Eh bien d'abord, dans les eaux minéralisées, autour de 1200 unités par litre. On peut les utiliser pour les boissons froides et chaudes, pour les soupes, mais aussi pour faire cuire les aliments qui absorbent beaucoup d'eau comme le riz, les autres céréales et les légumes secs. On en trouve également dans les céréales semi-complètes ou complètes, dans les légumes secs et le soja, dans les légumes verts, dans les oléagineux, les noix, noisettes, amandes, et dans les fruits de mer. En second lieu, le zinc, pour booster nos anticorps.
Ah, c'est bon pour toi, Janine.
Oui. Le zinc est un minéral le plus important pour les défenses anti-infectieuses. Il est notamment nécessaire à la production de nos anticorps et de nos globules blancs, nos deux principaux défenseurs. Or, 80% de la population ne reçoit pas les apports recommandés de 15 mg de zinc par jour, et davantage les personnes âgées qui l'absorbent moins bien que les autres. Où le trouver donc ? Le zinc se cache essentiellement dans les protéines d'origine animale, viande blanche et rouge, poissons, crustacés et fruits de mer. Quant au zinc contenu dans les végétaux, il est très mal absorbé par l'organisme humain. Végétariens et végétaliens doivent donc être encore plus attentifs pour ne pas en manquer.
Oui, ça c'est important. Ouais.
Autre vitamine, la vitamine D pour ses atouts préventifs.
Vitamine D, oui, il me semble, Janine, tu nous en as parlé tantôt un petit peu.
Voyez-vous, j'avais des bons conseils aussi à vous donner.
Tout est lié, mes amis.
La fixation du calcium sur les os est due à la vitamine D. Elle est couramment utilisée dans la prévention du rachitisme chez les bébés et de l'ostéoporose chez les personnes âgées. Mais de nouvelles recherches ont récemment permis de savoir que cette vitamine avait également des qualités dans la prévention de certains cancers fréquents et du diabète. Où la trouver donc ? La vitamine D se trouve en quantité très faible dans la plupart des aliments, excepté dans les poissons gras, saumon, sardines, thon et des huiles qui en sont extraites. La vitamine C, enfin, pour l'énergie. La vitamine C, elle aussi, a des effets antiviraux, car les globules blancs y puisent la force dont ils ont besoin pour détruire les virus et les bactéries. Où la trouver ? Dans les fruits et les légumes crus, ou très bien cuits. Les fruits, baies rouges et noires, le chocolat noir, le vin rouge. Choisissez bien.
C'est bon. Oui, Safia, je pense que tu avais une suite pour nous. Tu avais un deuxième petit sujet.
Exactement. On continue dans la même lignée avec le top 5 des tendances santé en alimentation naturelle. Quel produit nous conseille Hélène Baribeault dans psychologie.com ? Alors, le 19 janvier 2015, avec l'hiver qui vient de commencer, Hélène Baribeault, nutritionniste, auteure, chroniqueuse et blogueuse, vous fait part des top 5 des tendances santé en alimentation naturelle identifiées par l'Association canadienne des aliments de santé. De nouvelles huiles intéressantes à base de bons gras. Premier aliment. En 2015, les consommateurs auront l'occasion de découvrir de nouvelles huiles, offrant des avantages uniques pour la santé. Cet hiver, l'huile d'avocat sera une vraie tendance. Saviez-vous que l'huile d'avocat est riche en gras monoinsaturés et en vitamine E ? Elle dispose également d'un point de fumée élevé qui la rend idéale pour un sauté de légumes et d'alimentation organique. À surveiller aussi, l'huile de caméline et l'huile de graines de citrouille. Mmh. Les deux peuvent être utilisées pour faire des vinaigrettes saines et savoureuses. L'eau d'érable, second élément. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, dans son état le plus pur, l'eau d'érable constitue une boisson désaltérante des plus efficaces. Regorgeant de minéraux, comme le potassium, le calcium, le magnésium et le manganèse. Cette boisson hypocalorique fournit de l'énergie sans faire grimper votre taux de sucre. L'eau d'érable constitue une excellente façon de s'hydrater lors des exercices hivernaux. Troisième aliment, l'ultime supplément hivernal, la vitamine D, dont nous avons déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Et le dernier aliment, la santé digestive. Les produits de santé naturelle qui favorisent la digestion, que l'on retrouve dans la catégorie des probiotiques dont Janine nous a parlé tantôt.
Donc, moi, j'ai une petite question pour vous, mais avant ça, j'aimerais juste préciser l'article de tantôt sur le top 5, c'était sur le site de passeportsanté.net, juste pour préciser. Alors, moi, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous envie d'en faire plus pour votre planète? Si oui, c'est quand même assez facile. J'ai pour vous quelques petits conseils pour pouvoir limiter, en fait, votre empreinte écologique sur la planète. Et c'est pas mal plus facile que ce qu'on pense.
Donc, on va bien voir ça.
Oui, donc on va y aller par endroits stratégiques, en fait, dans la maison pour commencer, et plus précisément dans la cuisine. Quelques petits conseils. Si vous voulez en faire juste un peu plus, vous pouvez, en fait, réchauffer votre plat au micro-ondes plutôt que sur la cuisinière ou au four conventionnel. Et on préfère également la bouilloire électrique à la casserole pour faire bouillir de l'eau. Si vous voulez en faire plus, on privilégie la cuisson à la vapeur pour les légumes. C'est plus rapide et plus nutritif. Et enfin, si vous voulez en faire plus, on limite l'utilisation des assiettes et du papier d'aluminium. Leur production nécessite beaucoup d'énergie. Également, on recycle nos déchets alimentaires pour faire du compost pour le potager, nos fleurs et nos plantes. Toujours dans la cuisine, on résiste à l'envie de laver la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Ben oui. Rincer notre vaisselle gaspille près de 23 000 litres d'eau par ménage annuellement. Pour en faire encore plus, on démarre le lave-vaisselle seulement lorsqu'il est rempli à pleine capacité et on choisit le cycle le mieux adapté et le moins long pour notre lavage. On laisse sécher également la vaisselle propre à l'air libre. Et puis pour en faire plus.
C'est parfait pour moi, ça.
Lors de l'achat du prochain lave-vaisselle, on choisit un modèle qui consomme moins. Et on recherche également l'étiquette Énerguide qui permet de connaître la consommation énergétique des appareils électroménagers. Donc l'étiquette Énerguide apparemment.
Et tous les nouveaux appareils ont cette étiquette-là maintenant.
Ok, parfait. Je lave encore ma vaisselle, je suis à l'ancienne, donc je m'excuse pour ça.
Moi aussi, je la lave, moi aussi.
Dans la salle de bain, on pourra fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, se rase ou se lave les mains. Un brossage de dents à robinet ouvert utilise environ 13,5 litres d'eau contre 0,5 litres à robinet fermé. C'est quand même pas mal. Également, on préfère la douche rapide au bain. On peut passer ainsi d'une consommation d'eau de 150 à 75 litres. Également, on installe un aérateur ou brise-jet sur la robinetterie du lavabo afin de limiter le débit à 5,7 litres par minute. Et puis pour finir, on choisit une toilette au débit réduit de 6 litres contre 20 litres pour les vieux modèles. Mieux encore, on se tourne vers un modèle à double chasse d'eau de 3 litres ou bien de 4,8 apparemment ou 6 litres selon l'usage. Pour finir, dans la salle de bain, on achète du papier hygiénique fait à 100% de fibres recyclées pour protéger nos forêts et de fabrication locale parce que moins de transport.
Également, est-ce qu'il est doux ou il n'est pas doux, ce petit papier?
Bonne question. Également, on installe une deuxième poubelle pour le recyclage des rouleaux de papier hygiénique, des boîtes de savon et des bouteilles de shampoing. Et puis, on se tourne vers des produits nettoyants écologiques portant un sceau de certification indépendant. Ils doivent être biodégradables en 30 jours ou moins, sans parfum ni phtalate. Alors, les phtalates, je pensais que c'était une faute d'orthographe. Finalement, ce sont des composés chimiques qu'on utilise pour plastifier le plastique, souvent pour le rendre plus mou ou plus flexible. Et puis, ça a été visiblement prouvé que ça a des effets nocifs pour la santé. Alors, on se tourne ensuite au travail, au boulot. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter votre empreinte écologique? Alors, vous pouvez participer aux collectes sélectives en place dans votre milieu de travail pour recycler le papier, le verre et le plastique. Vous pouvez aussi penser au réemploi, comme la collecte de contenants consignés, le don de vieux matériel informatique aux organismes qui en font la réhabilitation, ou la collecte sélective d'une multitude d'objets via une entreprise comme TerraCycle, par exemple. Ensuite, on met sur pied un comité vert qui proposera des initiatives écologiques au boulot, comme les incitatifs au recyclage, les lunchs verts, le transport actif. Ensuite, toute une petite rubrique sur, dans le fond, l'apport avec vous d'ustensiles qui sont réutilisables plutôt que des matériels comme le carton ou le styromousse. Et puis aussi l'achat de formats plus grands dont on recycle les emballages. Et également, on évite les portions individuelles. Pour finir au travail, on préfère la fontaine d'eau ou l'eau du robinet aux distributrices ou à l'eau embouteillée. Afin d'améliorer la qualité de l'air, on installe une plante dépolluante dans notre espace de travail comme le drakena, le pothos, le ficus ou le bocarnea. Ce sont des très belles plantes d'intérieur, assez faciles d'utilisation, semble-t-il, et d'entretien. Et puis, pour contribuer à diminuer l'émission des gaz à effet de serre, on se rend au bureau en transport en commun, à pied ou en vélo. Ça, inutile de vous le dire, c'est quand même souvent dit. Enfin, au magasin. On privilégie les contenants recyclables et les emballages réduits, formules concentrées et gros formats. Lorsque c'est possible, et si vous voulez en faire plus, on choisit des produits locaux qui nécessitent moins d'énergie en transport, diminution des gaz à effet de serre et qui, avec moins de réfrigération et moins d'emballage. Donc les produits locaux, tantôt ça faisait un petit appel à mon article de tantôt sur les saveurs boréales. Mmh. Et enfin pour en faire plus, on ajoute quelques aliments biologiques dans notre panier d'épicerie. Les méthodes industrielles d'agriculture et d'élevage sont basées sur l'usage d'herbicides, d'insecticides et de fertilisants. Également d'antibiotiques et d'hormones de croissance, ça fait pas mal, sans effet sur notre santé et notre environnement. C'est un petit texte de Daniel Verville, excusez-moi, dans le coup de pouce de janvier 2015. Goodbye.
Eh bien, voilà, on avait une belle chanson intéressante pour mon article. C'était « Mother » de John Lennon. Moi, je vous parle des mamans. Je ne sais pas tout qu'elle dit. C'est un article de Catherine Mainville dans le coup de pouce de février 2015. Pourquoi les céleris sont verts? Pourquoi mamie a du poil au menton? Pourquoi la lune est si loin? Ah, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus du jour ou de l'endroit, ni même de la question que m'a adressée ma fille de 5 ans cette fois-là. Avec toutes les questions qu'elle pose dans une journée, je dois avouer que j'en perds parfois le fil. Comme tous les enfants de son âge, ma grande me questionne sans arrêt. Pourquoi les feuilles des arbres tombent-elles? Pourquoi les garçons ont-ils des pénis? Pourquoi je ne peux pas manger de bonbons le matin? Parfois, elle donne dans le plus existentiel. Pourquoi dit-on que papy est au ciel s'il est au cimetière? C'est qui Dieu? Qu'elle fasse dans la philosophique ou dans le terre-à-terre, parfois je ne sais quoi répondre. Parfois, non. Cette fameuse fois, je ne savais pas. J'ai toutefois ajouté, je pense que papa connaît la réponse par contre. C'est alors qu'elle m'a lancé tout de go. Tu ne connais pas beaucoup de choses, toi, hein, maman? Ouch! Encore pire qu'une affirmation. Elle me questionnait sur mon ignorance. Si cette remarque a d'abord infligé une sale blessure à mon orgueil, excusez-moi, elle m'a aussi beaucoup fait réfléchir. Est-ce vrai que je ne connais pas grand-chose? N'exagère-t-on pas? Par contre, il est vrai que je ne sais pas tout. J'ai alors réalisé que je n'hésite jamais à dire à mes filles ces quatre mots décevants. Je ne sais pas. Aurais-je tort de me montrer aussi infaillible, aussi faillible à leurs yeux? Pourtant, j'ai grandi avec une mère qui avait toujours réponse à tout, même lorsque cette réponse n'en était pas vraiment une, et qu'elle servait à mettre un terme à la négociation ou à une discussion à la fin d'une journée éreintante. Une maman qui avait toujours raison dans ses réponses comme dans ses arguments. Jusqu'au jour où j'ai réalisé avec frustration et déception que ce n'était pas toujours le cas. Ma mère pouvait avoir tort. Ma mère pouvait ne pas savoir. Ma mère pouvait se tromper. Et vlan! Selon Germain Duclos, un psychoéducateur et orthopédagogue, un enfant doit toujours être élevé dans la vérité, même quand cette vérité laisse entrevoir nos failles. L'enfant qui se retrouve devant un parent qui ne fait jamais d'erreur ou qui n'avoue pas en faire se sent dans l'obligation d'être le digne héritier de ce parent parfait, explique-t-il. Bien souvent, l'enfant s'impose des exigences, devient perfectionniste et n'accepte pas de faire des erreurs qui sont pour lui synonymes d'échec. Pour ce spécialiste, le parent doit être un modèle d'apprentissage plutôt qu'un modèle de perfection. Les parents ne sont pas des encyclopédies et ne peuvent pas tout savoir. Par contre, il est essentiel d'aider l'enfant à trouver la réponse afin de ne pas le brimer, afin de ne pas brimer sa curiosité qui est essentielle à son développement. Tout comme ma mère, je ne suis pas une mère parfaite et il m'arrive de ne pas savoir et de me tromper. Et ça, je ne m'en suis jamais cachée devant mes filles. Cela m'a permis de leur enseigner à ne pas voir l'erreur comme une fin, puisqu'il est toujours possible de corriger l'inexact ou l'injuste. Avec elles et pour elles, j'apprends qu'il est permis de ne pas savoir, mais que je ne cherche pas la réponse par paresse ou par abdication. Ça ne l'est pas. Je continue néanmoins d'y voir une façon de cultiver leur curiosité et la mienne et de leur apprendre que les questions niaiseuses n'existent pas. Les gens parfaits non plus, d'ailleurs. Leur surprise en sera juste moins grande à l'âge adulte. Des petits conseils pour les enfants de 0 à 5 ans. Calme-toi. En grandissant, notre tout-petit contiendra mieux ses émotions. En attendant, il y réagit avec tout son corps. Comment lui apprendre à se calmer? Pour cela, il doit d'abord dépenser son énergie en bougeant chaque jour, dit Joanne Ternier, fondatrice d'Éduc Santé, une firme de formation en petite enfance. Son besoin d'attention doit aussi être comblé par le biais de moments privilégiés avec nous. des techniques inspirer lentement par le nez et expirer par la bouche ou le nez, des trucs pour l'aider, faire semblant de sentir une fleur, imaginer que son ventre est un ballon qui se gonfle et se dégonfle, placer un toutou sur son ventre pour faire monter et descendre un ascenseur. Quand il s'excite, le comparer à une auto qui va trop vite, lui rappeler qu'il est le conducteur et qu'il peut contrôler sa vitesse.
C'est bon.
La source d'Éduque Santé est naître, guérir et grandir.
Une petite brève sur les crèmes démaquillantes. Veloutées et onctueuses, les crèmes nettoyantes volent au secours des peaux malmenées. Des alliés de poids contre la saleté et le froid, c'est un texte d'Aline Pinksteren, issue du Elle Québec de février 2015. Une crème démaquillante, c'est quoi ? Un démaquillant crémeux riche en lipides, très onctueux. Il vient aisément à bout des fards les plus tenaces et du même coup, il nourrit aussi l'épiderme. C'est pour qui ? Ces crèmes nettoyantes purifient les peaux fragilisées par l'eczéma et le psoriasis sans produire d'effet décapant. Elles conviennent aussi aux peaux agressées par le vent et le froid, tout comme aux peaux matures qu'elles contribuent à assouplir. On s'en sert comment ? À sec, on en étale une noisette sur le visage maquillé, qu'on masse pour diluer les fards et la saleté. On retire ensuite le produit à l'aide d'un coton. Inutile de rincer à grande eau ou d'asperger son visage de tonique, ça éliminerait le film velouté que le nettoyant a laissé sur la peau, ce qui supprimerait ses bienfaits hydratants. Autre atout des crèmes démaquillantes ? Leur polyvalence. On peut aussi les utiliser comme masque quand l'épiderme tiraille, ou comme baume anti-callosité sur les zones très rugueuses du corps.
Alors, une petite brève aussi sur une pause hivernale en tout compris. La formule tout inclus en séduit plus d'un parce que tout est inclus. Laisser à d'autres le soin de décorer, de préparer les repas fastueux et surtout de faire la vaisselle. Oui, s'il vous plaît. La tendance se confirme. Aller en vacances, en famille élargie, avec papy, mamie et tous les cousins, c'est s'offrir des vacances inoubliables. Si on n'a pas une semaine ou deux ou le budget pour aller dans le sud, on garde les deux pieds au Québec et on part jouer dans l'immense terrain de jeu de la station touristique du Chesnay, 89 km² dans la vallée de la Jacques-Cartier près de Québec. Ici, tout est possible. Forfait, demi-pension avec déjeuner buffet et souper, table d'hôtes qui mise sur les produits de la région, hébergement en auberge, en chalet ou en pavillon de 8 à 12 chambres et gamme complète d'activités pour petits et grands allant de la raquette au géocoaching, en passant par une virée en spa cadinave Twist Guard, même avec le papa Noël. Alors, bonne journée! Eh bien, déjà, voici notre heure à passer agréablement. Nous sommes heureuses que vous soyez là. C'était Sophie Chevanche, Safia Larabie et Janine Petitbois. Un gros merci à notre charmant Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et ses beaux choix musicaux.